Sweet Home Chicago, deuxième heure de ce 1151e épisode avec l'interview de Jean-Pierre Vignola, volet 2. Elton James, Muddy Waters, voilà, tous ces grands noms, John Luker. Je peux te dire que parmi les jeunes fans de blues qui écoutent de temps en temps l'émission, c'est des noms qui résonnent, c'est des noms qui parlent et qui font rêver. Tu sais, c'est toujours le jeu, hein. Moi je suis devant toi, donc j'ai vu un tel. Bah oui, toi t'as de la chance, t'as vu un tel. Oui, mais sauf que je verrai pas les musiciens d'après, puisque voilà, on n'est pas responsable de l'année à laquelle on est né. Mais est-ce que toi tu penses, de façon introspective, Jean-Pierre, que pour ces musiques-là, tu es né à la bonne époque?
Oui, j'aurais préféré naître un peu plus tôt, mais je serais peut-être pas là pour... de parler aujourd'hui.
Et tu penses que tu serais peut-être en train de nous raconter ta tournée avec Elvis Presley en 58, des choses
non,
comme ça ?
Non, 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 non. mes rapports avec le rock and roll, ça a été Fats Domino, Chuck ouais. Berry, Ike Turner.
Alors, Ike Turner, qui a une longue carrière, Ike Turner, qui fait partie des artistes que tu me proposais dans ta liste. Est-ce que cette histoire avec Tina, qui a été romancée et ensuite, bien sûr, adaptée à l'écran, et puis d'abord écrite...
Il n'aimait pas en parler, on n'en a pas voilà. parlé.
Voilà. Vous n'avez pas parlé du tout.
Non. Et on avait une proposition quand on l'avait fait venir au Jazz Club du Méridien, et c'était son retour, donc on avait fait une conférence de presse... Et toute la presse spécialisée ou non était là. Et on avait une proposition pour une émission d'Ardisson. Mmh. Et moi, je l'ai refusé parce que je ne voulais pas... Avec Ardisson, c'était s'aventurer parfois sur un terrain dangereux. Et je ne voulais pas qu'il pose des questions.
Tu penses qu'il aurait pu péter un câble carrément avec
Ah bah l'autre, il serait peut-être... Oui. Parce qu'Ardisson aurait été capable de dire... Comment est-ce qu'on portait au lit, Itaina ou des trucs comme ça. Et l'autre, il aurait... Bon, c'était... Je ne voulais pas prendre le risque.
D'accord. Avec Turner, c'est donc, en dehors de ça...
Un homme charmant.
Voilà.
Un homme charmant.
C'est ce que j'ai entendu par ailleurs, oui.
Oui, oui, un homme charmant. Et le souvenir qu'on l'a fait à Nice, il est arrivé, donc il a déjà été interloqué par le Théâtre Antique, vide. Et évidemment, c'est un beau lieu. Hein. Et le soir, quand il est revenu après la balance, il a regardé, et c'est archi plein. Il y avait comme concert... Ike Turner et Chuck Berry. Mmh. Et on avait fait les 8000, le complet, archi-complet. Et il m'a dit, oh, ce soir, je suis obligé de bien jouer. She made my blood run cold. Sent cold chills all through my soul. My doctor asked him what was wrong. He gave me an examination. I was chilled to my bones. She made my blood run cold. Sent cold chills all through my soul. He said your kisses freezes my heart, causes my blood to stop. Have icicles hanging from my eyes. I need heat all around the clock. She made my blood run cold. Sent cold chills all through my soul. He checked my blood pressure. He found that had none. He said, bring me that woman so she can see what she has done. She made my blood run cold. Sent cold chills all through my soul. She came to the doctor's office and rubbed him on his head. Before I could give him a warning, he was standing there frozen dead. She made his blood run cold, took all the life right out of his soul. Ike Turner, il avait été impressionné parce que la pente du théâtre est très forte. Ouais. Et l'artiste sur scène a l'impression d'être dans le public.
Et d'avoir un mur de gens devant lui.
Un mur devant. Oui. Parce que Nougaro avait dit que c'était un mur d'humanité.
C'est vrai.
À Vienne. Et heureusement, il a bien joué, il a fait un bon concert, parce que Chuck Berry, après, il a cassé une corde, il n'a pas changé, il a cassé deux cordes, pareil. Bon, bref, il s'est foutu un peu de la tête du public, comme ça y arrivait souvent.
Parce que c'est vrai, ce que tu soulignes, la plupart des gens ne le savent pas, mais quand un artiste est sur scène, il ne voit absolument pas le public qui est devant lui, même quand on est au Zénith avec 6000 personnes devant soi, on voit juste les 2-3 premiers rangs et ça s'arrête là. En général, l'éclairagiste oublie la salle et se polarise sur la scène, c'est bien normal. Mais dans ce cas-là, quand on est dans un amphithéâtre, je pense qu'on doit voir jusqu'à la dernière personne tout en haut et voilà, forcément, c'est impressionnant.
Oui, c'est impressionnant.
Ces musiciens-là t'en parlaient et pour eux, c'était une des conditions particulières comparées aux
clubs. Ils ont toujours aimé, même les vedettes, parce qu'ils avaient l'habitude de jouer dans de grandes salles ou dans les stades, mais ils n'avaient pas la proximité qu'ils avaient. Ils sont tous émerveillés. George Benson, qui d'année en année va revenir cette année, il adore venir jouer à Vienne.
On va faire cette parenthèse sur Vienne, et c'est vrai que tu t'occupes de ce festival avec d'autres, hein. Vous êtes plusieurs à en faire la programmation. On a pu voir un très très beau plateau en 2021, composé exclusivement de musiciens français, ou quasiment exclusivement de musiciens français, sauf un Texan, mais qui habite à Vienne, donc ça compte pas. Je parle de Neil Black. Enfin bon, tu nous avais régalé avec ce plateau autour de Fred Chapelier, Greg Zlatt, Neil Black, et puis Lowland Brothers en première partie, et bien sûr le final, le bouquet final magnifique avec Paul Persson. Ça fait longtemps que tu t'occupes de cette soirée blues, Jean-Pierre, à Vienne ?
Pas mal, oui. Depuis le début, puisque Vienne est né en 80 sur la programmation d'un seul soir, où il avait fallu prouver au maire de l'époque, qui était Louis Mermaz, la faisabilité d'un événement. Et j'avais programmé ce soir-là Fats Domino, B.B. King et Muddy Waters.
Que des mauvais.
Voilà, c'était...
On est en quelle année là ? 79 ?
80.
80 ?
On est en 80.
Et donc Louis Mermaz a assisté au concert.
Je me souviens, j'étais pas là. J'étais en tournée avec Lionel Hampton. Mais
ça a fait un grand succès, j'imagine.
Le copain Jean-Paul, oui. Et a pu prouver comme ça au maire. Et Vienne est né en 81, pendant 5 jours.
Ouais, et ça veut dire que... par la suite, mais là, ça fait déjà
40
ans.
Il y a toujours eu du blues.
Il y a toujours eu du blues à Jazz à Vienne.
Et Magic Slim, et tout le monde, mon Lucky Peterson, Buddy Guy, B.B. King, X-Fois, Fats Domino, enfin bref.
On a cité des grands du blues, on n'a pas encore vraiment parlé de B.B. King. B.B. King, pour certains, ça reste le plus grand géant. Un garçon qui nous a quittés à l'âge canonique de 90 ans en 2015 et qui continuait à jouer jusqu'à la fin. Un bel exemple pour tous les jeunes bluesmen et un bel exemple pour même les gens de la génération de juste après. C'est-à-dire qu'il y a des gens de 60-70 ans qui continuent à s'inspirer de ce garçon-là. Et moi, je connais des jeunes musiciens qui écoutent certes Stevie Ray Vaughan, certes d'autres musiciens un peu plus contemporain, mais qui se réfère toujours à un moment donné à B.B. King. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, B.B. King ?
Bon, déjà, c'était le guitariste et le chanteur qu'on a connu, mais c'était une personne profondément gentille. C'était un amour. Bon, il avait des petits soucis de santé. Il avait du diabète. Bon, il était un peu surveillé. Il m'envoyait en douce acheter des glaces, des produits qui lui étaient interdits.
Ok, il n'avait pas droit, oui, bien sûr, du fait de sa santé. D'accord.
C'était un amateur de guitare. Il était fan de Django Reinhardt et il achetait, je l'ai accompagné par exemple à Nice, il achetait des vinyles comme c'est pas possible.
Ouais,
tout. Il a donné toute sa collection de vinyles à une université et il a tout racheté en CD. C'était vraiment un personnage agréable.
Ouais.
Agréable et plaisant à vivre et humain. Et...
Donc, tu as eu l'occasion, ça veut dire que dans cette camionnette, une fois de plus.
Bibi n'est pas monté dans la camionnette.
C'était plus la limousine quand même.
Oui, Bibi n'est pas monté dans la camionnette. Et puis, l'orchestre était, comment dirais-je, important. Hein. Moi, j'ai commencé à connaître Bibi King. Il y avait Calvin Owens qui dirigeait, trompette. Il y avait 2-3 trompettes, 3 sax, trombone. C'était un.
Qui était la batterie à ce moment-là ? C'était déjà Tony Coleman ou
Non, c'était pas Tony Frey. Coleman la première fois. Non, c'était pas Tony Coleman. Tony Coleman est venu avec quand il y a eu une formation un peu plus réduite.
D'accord.
Il y avait toujours Bougalou, il y avait Eugène Carrière au clavier. Mais c'est un type fantastique. Bon.
Est-ce que de ce que tu en as vécu avec lui, échangé avec lui, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est le roi du blues ou est-ce que tu penses que c'est un titre qui pourrait être partagé ou qu'il est usurpé carrément ?
Non, non, il n'est pas usurpé. Ça, il y a quelques noms comme ça. Bon, Ellington, c'était le duc. Count Basie, c'est Count Basie. Hein, William. Benny Carter, c'était le King Carter. Et B.B. King, le roi du blues. Non, non, ça a été un... Et il a tellement influencé d'artistes. Même Eric Clapton est un fanat de B.B. King.
Ah, mais il existe des photos qui datent des années 60 où ils jouent ensemble déjà, alors que le jeune Clapton avait quoi, 20 ans en 65
hein, ça a été c'est un musicien qui a marqué le... Et un musicien, j'ai toujours le souvenir de son manager, Sid Sadenberg, qui il m'avait dit qu'il en ferait une vedette de rock.
C'était son but, c'était le
son
fait.
But.
Et voilà, il avait ce plan, ce fameux plan, comme quoi il fallait passer un espèce de plafond de verre pour B.B. King.
Il l'a fait, est-ce un bien, j'en sais rien, mais il l'a fait.
Qui sont, à tes yeux, les artistes noirs américains qui ont su percer, tout comme l'a fait B.B. King? Quelqu'un qu'on pourrait citer dans la rue, je veux dire l'homme de la rue qui ne connaît pas forcément toutes ces musiques-là, va citer B.B. King de façon peut-être spontanée. Qui d'autre à ce niveau-là?
En question, question difficile, ça c'est... Il y en a plein qui sont sortis de... Non, je ne peux pas répondre, ça, ouais. J'arrive pas à répondre.
Il faudrait poser la question à l'homme de la rue, effectivement. Je pense que es tellement imprégné de toutes ces musiques-là, Jean-Pierre, que, en fait, pour toi, des gens... Est-ce que c'est vrai est-ce que tu penses que des gens comme Illinois Jacket, comme Magic Slim, Pelmel, Little Milton ou B.B. King sont des gens placés au même plan ou alors que ils ont chacun leur...
Non, moi je les place au même plan.
Ouais.
C'est des artistes de haut niveau.
Big Voice Sodom, tout comme B.B. King, par exemple.
C'est un chanteur terrible, eh oui. Big Voice.
C'est
inconnu.
C'est quelqu'un qui n'est pas connu. Voilà,
moi,
je l'ai connu grâce à ses fameux albums.
Il y en a plein, musiciens comme Lonnie Brooks, un peu connu. Matty Joe Young, c'était terrible. Il est mort assez jeune. Mais ils avaient tous quelque chose de particulier. C'était des artistes de grande valeur.
À quoi est-ce qu'il faut attribuer le succès commercial, le succès médiatique, plus un artiste qu'un autre? Je veux dire, on est d'accord que Big Voice Sodom, il avait autant d'organes que B.B. King au niveau vocal. Pourquoi plus l'un que l'autre? Qu'est-ce qui fait ça? C'est le hasard? C'est les circonstances?
Les circonstances, c'est le management et l'envie. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu.
Le travail aussi?
Le travail. Et puis si on a un bon manager qui s'occupe de soi ou un bon tourneur, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Ça, je ne peux pas tellement l'assurer, mais bref, il y a plein d'artistes qui sont respectés par les musiciens et peu connus du grand public, comme par exemple Benny Carter. Le King Carter, tout le monde l'a respecté, c'était un génie, mais qui n'a jamais eu de grands succès commerciaux. Tu peux nous faire écouter Joe Williams sur un titre de Benny Carter, c'est Blues in My Heart.
Avec plaisir.
Et ça, ça fait partie de mes favoris. Surtout que, je suis pas objectif parce que Benny Carter, c'était un de mes meilleurs amis et c'était le parrain de mon fils.
D'accord, donc encore un lien de plus, s'il en fallait un. What can I do? Now that you say we're through, I'm left with the blues in my heart. How can I smile when love don't seem worthwhile? I'm left with the blues in my heart. How can I live? What is there life can give? As long as we're apart. Gone. I'm left with the blues in my heart. As long
we're apart. How can I go on knowing that you are gone? I'm left with the blues in my
Quels sont les liens qui, en fait, te rapprochent de ces musiciens-là ? Est-ce que tu as pu nouer des véritables amitiés ? Est-ce qu'on peut parler d'amitié ? Ou est-ce que ce sont des relations professionnelles et puis des relations amicales sur le moment, mais par la suite, dans les mois qui suivent, il n'y a plus rien ? Comment ça se passe avec les Américains ?
Pas avec tous, mais avec certains, c'était d'amitié. Oui. Ouais. D'amitié. Ils m'écrivaient une petite lettre, un petit mot pour me dire bonjour. Harry Edison, qui était né, par exemple, le 10 octobre, tous les 10 octobre, m'appelait parce que mon fils était né le 10 octobre également. Donc, c'était des petites marque d'amitié, sincère.
Effectivement.
Sincère.
Alors, on a évoqué beaucoup de musiciens, mais il y a encore beaucoup de noms comme ça qui pourraient arriver. Si on parle piano, alors on a parlé de Count Basie, mais Jimmy Smith, lui aussi, c'est...
Oui, organiste, je t'ai parlé de Ramsey Lewis.
Ouais.
Je t'ai cité Ramsey Lewis. Alors là, Ramsey, c'était, quand j'avais fait un peu de radio, un peu amateur, c'était le jingle de mon émission. Mmh. C'était son fameux tube « The In Crowd ».
Thank you.
Un peu de Ramsey Lewis et il sait bien jouer le blues. Hein. Je vais te donner une référence d'un morceau où c'est le blues. Bon. Et comment dirais-je, Ramsey n'était jamais venu jouer en France. Et je ne sais plus comment j'ai pu rentrer en contact avec lui. Il se fait qu'on arrive à se mettre d'accord et il vient jouer deux jours à Paris au Jazz Club du Méridien, au Jazz Club Lionel Hampton. Alors avant, il jouait au Ronnie Scott à Londres. Il avait pris le train. Je suis allé le chercher à la gare en voiture. Et j'étais fébrile, un vrai gamin. J'allais voir un artiste, alors que j'étais dans le métier depuis quelques temps, mais Ramsey Lewis. Alors je lui ai raconté, hein, il était charmant.
Ouais.
Alors le club, c'est la première fois qu'il venait jouer en France. Et donc on a eu le droit à même un article dans Paris Match. Et le Jazz Club a été blindé pendant les deux jours où il a joué.
On est en quelle année, Jean-Pierre, là ?
Début des années 2000.
Ah oui, d'accord. Mmh. Parce que là, tu parles du club Lionel Hampton. Il aurait pu s'appeler le club Cornbézy aussi, pourquoi pas ?
Non, non, ça c'est un choix. Et c'était plus simple parce que Hampton était pas un cabotin, mais il aimait bien tous ces petits honneurs d'avoir son nom partout, de recevoir les clés d'or de la ville. Il a été fait chevalier du Cassoulet. Bon, bref, il était heureux comme tout de plein de choses. Et quand je lui ai demandé s'il acceptait aux grandes dames de son manager, qui lui aimait l'argent avant toute chose, et il a dit oui sans problème. Et on a fait une inauguration avec lui. Ça a été monstrueux.
Ça, c'est 1986, si je...
Peut-être, oui, je ne sais plus.
Ouais. Et donc, il s'appelle toujours comme ça,
il ne s'appelle plus Lionel Hampton, parce que c'est, selon le directeur de l'établissement, chaque directeur veut laisser sa marque, et il y en a un qui avait décidé de ne plus appeler le Jazz Club, et d'appeler Jazz Club Étoile.
Étoile, voilà.
C'est beaucoup plus, beaucoup plus intelligent, je trouve, un Jazz Club Étoile, voilà. <ça.
rire> Pourquoi pas? Pour la place de l'Étoile, hein,
à Paris. Oui, d'accord, évidemment.
C'est juste pas loin de
non,
de
c'est vrai, Lionel Hampton, ça n'avait plus rien à voir avec le jazz. Bon.
Non, puis ça lui permet d'avoir maintenant les coups des franges pour programmer à peu près qui il veut, qu'il ne soit pas ni du jazz ni du blues. C'est ça aussi peut-être le but. Alors, cette programmation, on peut parler aussi de ce pan de ta carrière, Jean-Pierre. La programmation de ce club, elle t'a pris beaucoup de temps. Elle t'a rapporté...
Bah, ça a commencé avec Moustache. C'est dans les années 60. Je faisais ça comme ça par plaisir et donc je travaillais chez Black & Blue, puis en plus Moustache demandait un petit coup de main. On lui avait donné la mission d'animer le hall de gare qui était le hall du Méridien à l'époque, et ça a pris, ça a marché, et petit à petit on a fait venir des artistes américains qui étaient accompagnés par Moustache et son orchestre ou d'autres orchestres français, et après des orchestres américains complètement, voilà. Donc Hampton est venu jouer, Cab Calloway, l'orchestre de Cornbézy, Ike Turner, Buddy Guy, Junior Wells, Little Milton, Clarence Gatbus Brown, j'en passe, et des meilleurs.
Ah bah Little Milton, moi ça me... Oui, je me souviens de
Dizzy
ça.
Gillespie.
Début des années 2000, effectivement, oui, Dizzy Gillespie. Autant d'artistes qui ont laissé leur empreinte, bien sûr, et ça continue, enfin, je veux dire, il y a toujours de la musique là-bas, mais la clientèle de ce club, elle était... Quoi, essentiellement parisienne, essentiellement étrangère, du fait de l'emplacement de l'hôtel. Il y avait tous les clients déboulés ce soir-là, quand il y avait quelqu'un de grand.
De tout, oui, tout le monde. Tout le monde venait, oui, ça réservait. Moi, j'ai vu la queue pour Hampton du Jazz Club, qui est dans le hall. Ça allait jusqu'au boulevard. Ouais. Pour pouvoir attendre, le premier concert n'était pas terminé, qu'il y avait déjà la queue pour le second.
Ah oui, il y avait deux représentations le jour. D'accord. Sold out à chaque fois.
Et avec Hampton, c'est toujours une catastrophe parce qu'il joue plus longtemps que prévu. Ouais. Et c'est tant mieux. Thank you.
Jean-Pierre Vignola, tous ces artistes que tu as pu côtoyer, avec qui tu as vécu, on peut le dire vécu, hein, c'est ça le terme. Est-ce que tu es allé les retrouver aux États-Unis? Est-ce que tu as voyagé là-bas? Est-ce que tu as retrouvé quelques amis?
Certains, ouais. Oui, certains.
À quel endroit? New York, Chicago?
Je suis allé à Chicago, mais pas tellement, New York et Nouvelle-Orléans.
Nouvelle-Orléans, ouais.
Alors, je suis allé chez certains, on parlait de Milt Buckner, je suis allé chez lui à Defiance, dans l'Ohio, mais sinon, non. Et c'est la Nouvelle-Orléans qui m'a le plus marqué.
Pour quelle raison?
La musique transpire de partout.
Ouais. Tu es allé, bien sûr, au Preservation Hall, j'imagine?
Non, même pas.
Non,
mais à la Maison Bourbon, pour aller voir Wallace Davenport, que j'ai eu plusieurs fois en tournée, mais non. Et puis, j'ai travaillé au festival... en 1996.
Et tu as côtoyé des artistes que tu n'avais pas programmés en France encore?
Oui, et puis j'ai côtoyé des artistes que j'avais programmés. Tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que tu fous là? Et voilà, et je travaillais comme... J'étais paymaster.
Alors, quelques noms d'artistes que je pourrais te livrer comme ça. Moi, quand je pense à la Nouvelle-Orléans, tout à l'heure, tu nous as cité Fast Domino. Mais, allez, Dr. John, par exemple.
Dr. John, ça a été... je l'ai côtoyé quelques fois à Nice, à la Grande Part du Jazz, à Vienne et à la Nouvelle-Orléans. Oui.
Un autre artiste beaucoup moins connu internationalement, mais il a fait essentiellement sensation auprès des amateurs de blues et de guitare. Je parlais de Snooks Higlin. Tu l'as côtoyé, Snooks Higlin?
Oui.
Ouais.
Oui. Je l'ai vu à la Nouvelle-Orléans.
Ouais, un artiste aveugle.
Aveugle, oui.
Guitariste extraordinaire. Ouais.
Comme à la Nouvelle-Orléans, j'ai vu aussi dans un club R.L. Burnside.
Ouais.
Et ça, je l'ai fait venir après.
R.L. Burnside, peut-être que c'est la tournée que tu organisais. En tout cas, moi, j'ai pu l'applaudir en 91 sur le Lisieux Blues Festival. Est-ce que c'est toi qui t'occupais de ça à ce moment-là?
Ouais.
R.L. Burnside, très très bon souvenir. Il était venu de New York, il avait fait un one-shot, puis après il avait fait cette tournée.
Myself, see my jumper hanging on the line. My head.
des artistes qui ont marqué certains de nos artistes français. Ça m'amène à un autre pan de cette interview, Jean-Pierre, c'est par rapport...
On parlait de Dr. John, moi j'ai un morceau qui m'a interpellé, bon, qui n'est pas extraordinaire plus qu'un autre, c'est en duo avec Charles Brown.
Ouais.
C'est A Virus Called the Blues.
Ah, on pourrait écouter ça, tiens.
Ça, c'était un... Et Charles Brown, pareil, bon, connu des amateurs, mais ignoré du grand public. Alors que Ray Charles, dans son bouquin, dit qu'il a été inspiré par Nat King Cole et Charles Brown.
On écoute ça tout de suite, Jean-Pierre.
Never, never, never leave me. It seems the blues never, never go away, and that's a fact. I've been so downhearted since my love and I have parted, but the blues keep coming back. I caught the blues when my baby left me. Yes, I'm so infected with a virus called the blues. I went to my doctor to get a little relief and told him all about you, baby. Max, I walked the floor. My heart was in grief. Told him what you mean to me. Oh, he said, go home. Go home, Charles. There's nothing I can do for you. Go home, go home. I have no good news. You don't need no narcotics, no antibiotics. You got a virus called the blues. Thank you. my doctor to get some relief. I told him all about you, my baby. I walked the floor, my heart was in grief. I told him what you mean to me. Oh, he said, go home, go home, Charles. There's nothing I can do for you. Narcotics, no antibiotics. You got a virus called the blues.
I got a virus called the blues.
Max, I got a virus called the blues.
Charles Brown, you know I got a virus.
I got a virus, virus for the blues.
I got a chronic virus called the blues.
It happened to me, Max. I got a virus called the blues.
Yes, Charles, I got a virus.
Yeah.
Parler de piano, et moi ça me vient à l'idée que vers 2003, il y a un certain Martin Scorsese qui s'est fendu en production de 7 films, dont le 7e a été confié pour la réalisation à un certain Clint Eastwood, qui a réalisé ce film qui s'appelle Piano Blues, dans lequel on voit par exemple pas une Todd Perkins, mais également quelques autres. C'est un film qui te...
J'ai McShan.
Ouais.
Ben, J'ai McShan, c'était un gars de Kansas City. À l'époque de J'ai McShan, il y avait 2 sections rythmiques. C'était Count Basie avec Walter Page et Joe Jones, et Jay McShan, qui était Gus Johnson à la batterie, était extraordinaire. Et Jay McShan, il sait ce que c'est que le blues. Hein.
Alors,
il chante Confessing the Blues, il y a 2-3 titres là qui sont... Et c'est lui qui avait découvert, il avait un big band également, et il y avait Charlie Parker qui jouait de l'alto.
Alors tous ces noms-là que tu nous cites, bien sûr, sont des noms mondialement connus, respectés par tous les amateurs de ces musiques-là. Mais il y a également un petit métier, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, mais quand même, c'est celui de pianiste de jazz dans un grand hôtel. Enfin, je veux dire, pas un concert, mais tu vois, on met de l'ambiance, non pas avec une cassette, un disque ou un CD, mais... On fait jouer un type sur un piano à queue et ça permet aux clients de l'hôtel de boire le whisky tranquillement avec une ambiance musicale. Mais en général, quand on voit ça dans les films ou quand on voit ça dans la réalité, enfin moi j'ai toujours été le seul à applaudir, à regarder, à écouter. Et c'est dans la différence générale. Qu'est-ce que tu penses de cet état?
Ah ben c'est un métier difficile, ça, le piano bar. Hein, on joue.
Il y a un certain Gainsbourg qui a fait ça autrefois.
Oui, regarde, il y a Louis de Funès, Darry Cole, ouais. Il y en a plein qui ont été.
C'est l'école de l'humilité, en fait.
Oui, oui, bah c'était. Déjà, il fallait gagner sa croûte. Hein. Voilà. Donc, piano-bar, il y en a qui faisaient plusieurs bars, ils jouaient 2 heures dans tel, 2 heures dans l'autre. Ça a toujours existé, mais ça existe de moins en moins.
Mais l'ego du musicien, alors, dans tout ça, finalement, il y a.
Bah, le piano-bar, il faut jouer. Bon, faut avoir un répertoire assez large. Hein.
Oui.
Voilà. Pour la clientèle étrangère, touristique ou quoi que ce soit, c'est... Alors, il y avait un pianiste de bar à Paris, Aaron Bridgers, bon, qui était un Américain qui restait à Paris. C'était là... bon, il y a Christian Donadieu, je m'en souviens, Georges Arpanitas, où ils ont fait du piano bar. Et c'était des artistes déjà d'un certain niveau, mais c'était la sûreté pour gagner le... La croûte.
Alors le piano dans le blues, le piano dans le jazz, c'est peut-être l'instrument roi. La guitare, peut-être plus pour le blues. Quels sont les artistes, que ce soit des artistes que tu es côtoyé ou pas d'ailleurs, quels sont les artistes qui en fait ont éveillé ta curiosité à n'importe quel moment de ton initiation musicale? Je veux dire curiosité, vraiment.
Curiosité, hein, Kenny Burrell,
ouais,
qui a été un artiste, un guitariste extraordinaire, qui souhaite jouer le blues également, ça c'est sérieusement même. Et puis un homme qui est toujours de ce monde d'ailleurs, qui aimait bien la France, et toujours souvenir, lui m'avait demandé, il était avec sa compagne, il voulait aller chez Monet à Giverny. Donc je l'avais emmené chez Monet,
d'accord,
c'était assez... Il a une sacrée culture. Alors un dont j'ai oublié de parler aussi, mais il y en a tellement, Les McCann. Bon, ça a été un pianiste funky, bluesy funky, c'était quelque chose, un sacré numéro.
Je t'avoue que c'est la toute première fois que j'entends ce nom. Hein.
Les McCann.
Ah ben vraiment, oui, oui.
Ah ben essaye.
Tu m'aurais dit J. McCann, tu vois, ça colle un petit peu. Non, c'est...
Les McCann, voilà, fais des recherches. Fais des recherches.
Eh ben, complètement, bien sûr, bien sûr.
Il a eu une sacrée cote avec il avait un saxophone, Eddie Harris au saxophone, ils ont fait pas mal de trucs.
The lie and lie, the love are hanging on, we push and shove. Possession is the motivation that is hanging up the goddamn nation. Looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies kissing dogs. I hate the human love of that stinking mud. I can't use it. Trying to make it real compared to what. He's got his war. Folks don't know just what it's for. Nobody gives us a rhyme or reason. Have one doubt, they call it treason. We're chicken feathers all without wonder. God damn it, trying to make it real compared.
compared to what Saki to me had. Duck the wrath of God, preachers filling us with fright. They all trying to teach us what they think is right. They really got to be some kind of nut. I can't use it. I'm trying to make it real compared to what. And where's that honey? Where's my God and where's my money? Unreal values, a crass distortion. Unwed mothers need abortion. Kind of brings to mind old young King Tut. He did it now. Trying to make it real compared to what.
Voilà, c'était Jean-Pierre Vignola dans cette deuxième heure du 1151e Sweet Home Chicago, illustré par Ike Turner, She Made My Blood Run Cold, B.B. King, Rock Me Baby, Joey Williams and John Roger Shearing, Blues in My Heart, Ramsey Lewis Trio pour In the Crowd, Lionel Hampton, Midnight Sun, Earl Burnside, See My Jumper Hanging on the Line, Dr. John and Charles Brown avec A Virus Called the Blues et Les McCann and Eddie Harris Compared to What. Salut, bye bye.